Bonjour à tous et à toutes, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte composé, comme chaque fois maintenant, avec nos chroniqueurs, désormais attitrés. Ces chroniqueurs, en deux mots, que vous nous réclamez désormais à corps et à cri. Rendez-vous compte. À corps et à cri, dans cette expression, il n'est pas question du corps, C-O-R-P-S, mais du cor, cet instrument à vent utilisé dans la chasse qui accompagne le cri des chiens. Désormais, l'expression à cor et à cri s'emploie pour dire que l'on réclame quelque chose à grand bruit. Eh bien, dans ce rendez-vous compte spécial chroniqueur, on va tricher un peu sur l'orthographe, une fois n'est pas coutume, et c'est du cor, C-O-R-P-S, du corps humain dont il va être question et des cris qu'il pousse parfois pour réclamer, exiger, s'exhiber, souffrir, se libérer ou s'asservir à cor et à cri. Rendez-vous compte. Peindre des corps nus de femmes et plus encore d'hommes, quand on est une femme au début du XXe siècle, eh bien, cela déclenche polémique et scandale. Nicolas Martin va nous raconter l'histoire de ce tableau, intitulé « Gilbert nu se coiffant », un tableau de Suzanne Valadon, une femme peintre qui a su conquérir, à cor et à cri bien sûr, son indépendance, sa place dans la peinture moderne et dans le cœur, entre autres, d'Éric Satie. Merci Nicolas pour cette très belle première chronique.
C'était vraiment bien aujourd'hui. Allez, file. Sinon, tu vas te mettre en retard. On se retrouve demain à la même heure.
Une jeune femme se tient là, debout, toute nue sur un tapis épais dont les couleurs chamarrées et les généreux motifs floraux renvoient aux arabesques orientalistes de l'étoffe qui recouvre un panneau de bois posé contre le mur. En arrière-plan, un drap blanc négligemment jeté sur une chaise. Voilà le décor planté. Les deux bras levés, cette jeune femme s'apprête à nouer ses cheveux en un chignon désordonné. À moins qu'elle ne soit en train de libérer cette chevelure, c'est aussi important que difficile à déterminer avec certitude. Pourquoi est-ce important? Parce que, selon qu'elle noue ou qu'elle dénoue ce chignon, elle se prépare à poser ou à se vêtir après avoir posé. Le geste franc et sans affectation. Face à cette nudité toute simple, livrée au regard du peintre avec un naturel désarmant, je m'aventure à trancher. Il semble, à la regarder, que la jeune femme se prépare à reprendre le cours de sa vie, et à ne plus être un objet de désir artistique. Pourquoi? Parce que ce corps massif, solidement ancré, terrien, figé dans un geste du quotidien ne pose plus. Il semble libéré de la grâce affectée et des attitudes qu'on lui avait sans doute demandé d'adopter. Parce que le visage est lourdement fardé, que les yeux, très grands, sont cernés d'un épais trait de crayon noir, et que cet apprêt sophistiqué n'aurait pas sa place dans la rue. Du moins, pas dans celle où l'on ne marche pas la tête baissée. Le nez épaté, la bouche fine et petite, le menton gras, les joues pleines, donnent à Gilberte l'allure d'une très jeune fille. Car c'est là son prénom, Gilberte. Est-elle lasse, renfrognée, songeuse, mélancolique? Pense-t-elle plus prosaïquement à ce qu'elle fera au sortir de l'atelier? Nous ne le saurons jamais. L'artiste a fait en sorte que nous ne puissions que le supposer. La perspective est aplatie et l'espace construit, maîtrisé. Les couleurs vives sont composées d'aplats audacieux. À l'exception du pan de mur apparent, tout est courbe dans ce tableau. Surtout ce corps. Un corps de femme aux hanches généreuses, aux bras ronds, au sein souple, aux formes pleines. Un corps dont le ventre et ses lignes voluptueuses surplombent un pubis brun, cancer des cuisses et des jambes puissantes. C'est un corps qui ne s'offre pas dans sa possible volupté, et les pieds, très grands, aux proportions masculines, ancrent Gilberte dans la réalité. Des lignes fermes cernent le sujet avec précision. L'espace et les volumes du corps sont délimités par un contour noir qui le détache du fond. À bien y regarder, les objets de cette scène subissent le même traitement, et cet effet de contraste très graphique les met en relief. Gauguin n'est pas très loin. Les tonalités vertes dominent. Des murs, au motif du tapis, jusqu'à la chair crue de Gilberte, elles sont partout. Quel curieux sujet pour un tableau en vérité qu'un modèle semblant se préparer à se vêtir et à quitter l'atelier après une séance de pause. Curieux, pas tant que cela. Quand on sait que l'artiste fut l'un des modèles les plus célèbres et désirés de son temps, dès l'âge de 15 ans. C'est un peu de son histoire que nous raconte Suzanne Valadon dans cette œuvre. Fille de blanchisseuse, Suzanne arrive à Montmartre très jeune. Sa beauté, à la perfection classique mais farouche, captive. Très vite, elle pose pour Toulouse-Lautrec, puis Vice de Chavannes et Renoir. C'est elle qui finira par choisir ses peintres, au nez et à la barbe des autres modèles qui chaque jour tentent d'attirer leur attention place du Tertre. Libre, elle devient l'amante ou la muse de ces hommes, de leur peinture, de leur musique. Elle fréquentera un moment Eric Satie, qui en était fou. De modèle à peintre, pour Suzanne, il n'y a qu'un pas. La jeune femme puise l'inspiration chez ces génies qui la dévorent des yeux et peint. Edgar Degas, impressionné, lui enseigne la technique de la peinture et de la gravure. Une première exposition en 1911. Puis, plusieurs expositions personnelles de 1915 à 1928 posent les jalons de sa carrière. Elle est la première femme admise à l'École des Beaux-Arts de Paris et sera aussi la première femme artiste à représenter des hommes nus dans des œuvres monumentales. Des nus audacieux, empreints d'une tendre brutalité qui porte une vérité sans artifice. Sa palette décrit avec modernité et finesse la psychologie de ceux qui l'entourent, de ses camarades, de ses amours. « Je peins les gens pour apprendre à les connaître », dit-elle. On retrouvera, tout au long de son œuvre, une clarté qui lui est singulière et une sensibilité qui lui est inspirée par ceux dont elle s'entoure. Cézanne, Braque, Picasso, Derain. Aujourd'hui considérée comme une artiste de premier plan à l'ère du post-impressionnisme de cette fin de 19e siècle, Suzanne Valadon est un peintre majeur qui, née sur la butte, donnera naissance à un petit Maurice qui fera les beaux jours de Montmartre à son tour et entrera dans l'histoire. Son père, un peintre, lui aussi, qu'elle peignit, qui fut son amant et qui donnera son nom à l'enfant, Utrillo. Ainsi, prolongeant et dépassant le travail des impressionnistes avec une approche expressionniste, Suzanne Valadon fut-elle une passeuse, un lien entre deux époques. Elle préfigurera le développement futur d'un art en mouvement et en recherche d'innovation, aussi bien sur le traitement de la forme que sur son propos, à la fois décomplexé et radical. J'espère que cette chronique aura su vous convaincre de vous rendre au Centre Pompidou avant le 26 mai. Vous pourrez y embrasser d'un regard curieux, admiratif et pourquoi pas impudique les corps de Suzanne Valadon qui s'expose à travers plus de 200 œuvres dans le cadre d'une rétrospective monographique unique et inédite depuis 1967. À bientôt dans Argument.
Merci Nicolas pour cette chronique si riche et si sensible et inspirée par le tableau de Suzanne Valadon, Gilbert Tenu se coiffant, un tableau qui est curieusement censuré, donc invisible, sur Google, rendez-vous compte. Nicolas Martin, peintre impressionniste valdoisien, mais qui traite de façon exceptionnelle des thèmes mythologiques ou les portraits de personnages contemporains. On peut retrouver d'ailleurs le podcast de l'émission que nous lui avons consacré le 30 janvier dernier. Un podcast disponible encore sur le site d'IDFM, bien entendu. Et Nicolas, devenu maintenant un de nos chroniqueurs réguliers. Nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial thématique à corps et à cri. On écoute une chanson qui tombe à point nommé. Arthur, où t'as mis le corps ? Une chanson comique et surréaliste de Boris Vian, datant de 1958, interprétée ici par notre ami et comédien-chanteur Thierry Leclerc, qu'on peut retrouver dans nos podcasts du 26 septembre et 3 octobre dernier, en 2024.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui était chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant sa cloche.
Je sais pas où il est passé.
Arthur, où t'as mis le corps qu'on s'était crié sans cœur?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs.
Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
Ben, ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus où ce que je l'ai mis.
Oh, c'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne.
Michel Paret, notre fidèle chroniqueuse, s'amuse encore et encore avec les sens du mot corps, surtout celui de la femme, dont elle finit par réclamer la libération, bien sûr, à corps et à cri.
Corps. Vous avez dit corps ou bien corps? Là est la question. Corps d'harmonie, corps des Alpes, corps de chasse, genre « J'aime le son du corps le soir au fond des bois » ou bien à corps et à cri? Non, ce n'est pas ça. Alors, corps diplomatique peut-être? C'est trop énigmatique. Corps constitué? C'est pire encore. Corps d'armée? Trop rigide. Corps à corps? Trop militaire. À moins que corps à corps amoureux, ça, c'est déjà mieux. Eh bien, moi, je retiendrai le corps humain, oh, pas pour le disséquer, parler de ses différents organes. Non, je parlerai du corps des humains. Il est bien entendu que l'homme, le mâle, a sa vie durant un corps d'athlète, un corps divin, même s'il n'en prend pas toujours vraiment soin. Il n'est pas interdit de rire, ou au moins de sourire. Ah, je vous entends déjà pousser des cris d'orfraie, messieurs. Le corps de la femme, c'est une autre histoire. Souvent soumise à la volonté de l'homme, ou par respect d'une volonté prétendument divine, elle le voile parfois. Elle le cache, pour ne pas éveiller le désir masculin. La femme prend grand soin de son corps. Séductrice, parfois aguicheuse, elle en a toujours souligné les courbes, révélé les charmes, abusant de décolletés profonds et plongeants, de vêtements moulants. La taille de guêpe fut jadis à la mode. Gaines et corsets lacés, bien serrés, emprisonnaient son corps. De véritables carcans. Difficile de respirer à fond. Il lui arrachait parfois de petits cris de douleur. Et puis, la femme jeta le corset aux orties. Fini la dictature des sous-vêtements qui torturaient son corps. Enfin libre. De grands cris et soupirs de soulagement. Ce fut pour mieux retomber sous une autre dictature. Celle des corps et cuisses de nymphes, des corps de déesses, des corps filiformes de mannequins. La femme ne peut s'empêcher d'obéir aux diktats de la mode. Elle se jette à corps perdu dans des régimes draconiens, détourne les yeux des douceurs tentatrices, même si l'estomac crie famine. Elle sue sang et eau dans des salles de sport où l'on vous promet monts et merveilles. Régime, diète, jeûnes et privations se succèdent pour être dans l'air du temps. Et oui, il faut souffrir pour être belle et répondre aux canons de la mode. Le temps passe, le temps accomplit son œuvre, lentement mais sûrement. On a beau lutter, on ne peut rien contre l'érosion du temps. Le geste se ralentit, la jambe est moins leste, le muscle, naguère si ferme, s'avachit. On s'arrondit, tant pis. Oublions les publicités tapageuses, notre corps nous appartient. Il est à nous, rien qu'à nous. Femmes de tout pays, unissons-nous. La libération de nos corps, réclamons-la. À corps et à cri.
Nous sommes toujours bien sur EDFM et comme chaque mois, dans nos rendez-vous comptes spécial chroniqueurs, nous retrouvons celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties. Je parle bien sûr d'Hélène, Hélène Souhau, thérapeute et psychanalyste, qui nous présente aujourd'hui un livre qui, bien sûr, traite de ce rapport entre le corps, le cri et le traumatisme.
La thématique du corps m'a donné envie de vous présenter un livre de référence pour les psys paru chez Pocket, « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk, un psychiatre américain d'origine néerlandaise. C'est un très gros livre, mais très abordable, sur les traumatismes. La longue carrière de l'auteur débute à Boston, en 1978, dans une clinique pour vétérans du Vietnam. Chaque guerre est l'occasion de progrès pour la médecine. Mais la connaissance et le soin du trauma psychique a fait un bond impressionnant depuis la guerre du Vietnam.
Est-ce que dans ce livre, on ne parle que des traumatismes de guerre, Hélène ?
Il est intéressant de constater que c'est les traumatismes des hommes qui ont donné l'impulsion pour stimuler les recherches sur les traumas, mais qu'aujourd'hui, c'est souvent les femmes qui bénéficient de ces recherches. En effet, les violences que subissent les femmes et les enfants créent des traumas très proches de ceux des soldats. Le livre commence par décrire les effets du trauma, comme la mésestime de soi, le rapport compliqué à son propre corps, la difficulté à faire confiance et à créer des liens.
Bon, le plus important, c'est quand même d'expliquer comment surmonter les traumatismes, non ?
Oui, évidemment. L'auteur expose toute une gamme d'approches pour dénouer le trauma. Contre toute attente, l'auteur, qui est psychiatre, ne privilégie pas la thérapie médicamenteuse. Au contraire, il est très critique. Le médicament psychotrope estompe les symptômes et donne donc l'illusion d'un mieux-être, mais il ne suffit pas. Les fondements de nombreuses approches très en vogue aujourd'hui sont expliqués dans le livre. Alors, on va commencer par la thérapie cognitivo-comportementale, qu'on appelle aussi TCC. C'est une approche concrète et progressive pour apprivoiser les peurs. J'ai eu par exemple un patient souffrant de phobie des transports, qui ne pouvait plus sortir de chez lui. La solution a été de commencer par de toutes petites incursions dehors, et d'élargir progressivement ses sorties en cercles de plus en plus amples. Il s'agit d'un travail très orienté sur les effets, alors que la psychanalyse est très orientée sur les causes. Mais un bon thérapeute va toujours s'intéresser à la fois aux causes et aux effets. Il est aussi question dans le livre des thérapies par la parole, par l'art, par le théâtre. Tous les modes d'expression peuvent être utiles pour extérioriser ce qui fait mal à l'intérieur.
Bon Hélène, j'ai entendu parler d'une méthode qui s'appelle EMDR. Il en est question dans ce livre, j'imagine, non ?
Oui, l'EMDR, c'est la méthode reine, la plus adaptée au traumatisme massif. EMDR, ça signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, on va désensibiliser et réorganiser les mouvements oculaires. Les traumas soignés de cette manière sont ceux qui résistent au temps, qui normalement adoucit, amortit, estompe et finit par permettre de digérer le trauma et de passer à autre chose. Mais certains traumas non traités restent ainsi aussi saillants et insupportables que s'ils s'étaient passés la veille. Les cauchemars ne passent pas. C'est au cours du sommeil, au moment où les yeux tournent sous les paupières, que normalement cette digestion se fait quand tout va bien. Les chercheurs ont donc imaginé de faire tourner artificiellement les yeux du patient en état d'éveil pour inciter le cerveau bloqué à enfin se réorganiser, se restructurer et digérer le traumatisme. Et ça marche. Le livre aborde les trois parties que l'être humain doit soigner. Cerveau, esprit, corps. Une lecture indispensable pour les psys qui oublient parfois que le patient a un corps qui sait, un corps qui se souvient. Le maître au travail est très utile. Où ressentez-vous cette anxiété ? À quel endroit se joue l'oppression ? Et c'est comment maintenant que vous portez la main là où ça fait mal ? Je terminerai sur une citation extraite de la dernière page du livre. Le traumatisme nous confronte chaque jour à notre fragilité, à la cruauté de l'homme envers l'homme, mais aussi à notre résilience étonnante.
Merci Hélène de nous avoir présenté ce livre précieux, « Le corps n'oublie rien ». IDFM non plus n'oublie rien, puisqu'on peut retrouver nos émissions, et en particulier tes chroniques, en podcast sur le site de la radio. Merci Hélène. Hélène Souhau, biographe et psychanalyste à Saint-Leu-la-Forêt. À bientôt pour un nouvel Œil de psy. Eh bien, avec toutes ces histoires de corps et de cris, on a de quoi avoir la tête en l'air et la tête en bas. Comme l'a écrit si joliment notre chroniqueur Gérard Pouettre, l'auteur des chroniques de Maurice, le chat Maurice, qu'on retrouve très régulièrement dans le journal de François en ligne. Un poème donc qui s'intitule « Tête en l'air et tête en bas ». Un poème interprété par une voix à la fois intelligente et artificielle. Rendez-vous compte.
Tête en bas, tu ne vois que des pas. Tu ne vois que des rats. Tête en l'air, tu peux voir l'espoir, pas seulement ton miroir. Tête en bas, Tu ne vois que ton écran. T'es toujours à cran. Tête en l'air, tu vois les frondaisons, les terrasses, les balcons. Tête en bas, il n'y a que des nuques dégarnies ou de poils envahis. Tête en l'air, volent les hirondelles. Au loin, la tour Eiffel. Tête en bas, un pigeon estropié vient mendier à tes pieds. Tête en l'air, tu marches dans les flaques, mais c'est comme sur un lac. Tête en bas, tu sautes sur les flaques, mais c'est comme un cloaque. Tête en l'air, tu t'approches de l'horizon. Tête en bas, t'es coincé dans une prison.
Nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce troisième rendez-vous conte spécial chronique qui a pour thématique accord et acri. Dans sa chronique Argument, Nicolas Martin, peintre et grand connaisseur de l'histoire de l'art, a analysé la toile Gilberte, nue, se coiffant, peinte par Suzanne Valadon en 1920, en imaginant ce que pouvait ressentir la jeune modèle face à sa nudité toute simple, livrée qu'un naturel désarmant au regard du peintre et qui se prépare à reprendre le cours de sa vie et à ne plus être un objet de désir artistique. Eh bien, Marine Gauvin, illustratrice freelance, reprend ce thème à bras le corps, mais du point de vue de l'artiste, dans cette troisième chronique dont le titre est d'un véritable cri.
Laissez-moi dessiner des gens tout nus.
Marine, mais qu'est-ce qui t'a amené à ce cri du cœur qui ressemble fort à un coup de gueule ?
Eh bien, en fin d'année 2024, j'ai enchaîné plusieurs commandes personnalisées pour des particuliers à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour la première fois, on ne m'a pas demandé de mettre en scène une personne ou un couple, mais des familles entières, de 5 personnes. Je me suis alors retrouvée confrontée à plusieurs problèmes. Par exemple, je ne sais jamais quoi faire de la 5e personne. C'est terrible. 4, ça passe très bien. 5, ça ne va plus. Je me creuse les méninges pour que la 5e personne ne soit pas exclue de la scène.
Oui, mais enfin, au-delà du chiffre 5, en réalité, ce qui t'a le plus épuisé, vraiment, ce ne sont pas les portraits eux-mêmes.
Non, en fait, ce qui m'a vraiment épuisé, ce sont les vêtements. Ces petits bouts de tissu qui ne prennent pourtant pas tant de place que ça sur la surface du papier, mais me créent des boutons, des ulcères, des montagnes d'angoisse. Ce n'est pas vraiment dessiner en soi les vêtements qui me posent souci. Pas du tout, quelque part, d'ailleurs, j'aime bien ça. Non, ce qui me pose problème, ce sont les couleurs et les motifs. Mais quelle horreur! Je me triture la cervelle pour essayer de trouver des combinaisons de couleurs qui fonctionnent, des motifs sympas. Je peux passer des jours à regarder d'un œil morne et démotivé ces bouts de carrés, rectangles et trapèzes blancs qui attendent leur relooking alors que tout autour d'eux le paysage est posé, mis en couleur. Ce ne sont que quelques millimètres, voire petits centimètres qui me narguent, me toisent et me font fulminer. Et dans un de ces moments d'abattement, je me suis alors dit « Mais pourquoi est-ce qu'on porte des vêtements ? Ce serait quand même plus simple si on était tout nu. Débarrasser les problèmes de motifs, de couleurs. L'être humain dans son plus simple appareil, le corps qui peu à peu se dessine entre ombre et lumière. Des corps qui existent tout simplement, tout naturellement, sans besoin de chercher un logo à mettre, des figures géométriques sur un t-shirt, des fleurs sur une jupe. » Juste chercher le bon ton de la peau et continuer son bonhomme de chemin une fois les contrastes posés. La nudité dans ce qu'elle a de plus simple, de plus sain. Un monde où on ne serait plus gouverné par les vêtements. Car le vêtement en dit long, c'est un accessoire sociologique d'importance.
Pourtant, le proverbe affirme que l'habit ne fait pas le moine, alors.
Oui, mais quand même, montre-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es tout de même. Mais alors, si le vêtement a tant d'importance pour se construire notre identité, que devient donc notre identité quand nous sommes tout nus ? Qui sommes-nous ? Qui redevenons-nous ? Le tissu dévoile autant qu'il cache. C'est notre seconde peau. Et sans elle ? Sans elle, nous sommes nous, sans artifice. Un corps qui raconte son histoire, son âge, le temps qui passe. Mais le corps, c'est aussi le moyen direct d'entrer en contact avec le monde. Et quoi de plus beau que de le sentir tout contre sa peau ? Quoi de plus beau que de sentir son pouls battre sous la plante de nos pieds, le vent souffler dans nos cheveux, l'eau couler sur notre corps, le soleil caresser les poils de nos bras, les fleurs des champs se glisser entre nos orteils ? Mais c'est aussi l'ortie qui pique, le sable qui parfois gratte et s'immisce partout, un caillou un peu plus pointu que les autres, un sol glissant où l'on perd pied. Tant de sensations agréables, désagréables, euphorisantes, malheureuses, mais qui s'inscrivent dans notre peau comme un tatouage, qui nous emmène à le concevoir différemment qu'abrité derrière nos étoffes synthétiques. L'histoire qui se tisse entre le corps et l'espace est infiniment plus sensible et sensitive, plus profonde. C'est le monde qui se dépose sur la moindre parcelle de notre corps. Notre épiderme cartographie et garde en mémoire toutes ces expériences. Un livre intime, à nu, à découvert, et porté si profondément en nous.
Alors finalement, les vêtements, parfois, ne seraient-ils pas un obstacle qui nous empêche de ressentir pleinement notre environnement ?
Vous êtes-vous déjà baigné tout nu dans une rivière ? Il y a quelques années, je me suis retrouvée dans le sud, dans des gorges fraîches à l'eau cristalline. Il était 17 heures passées, les touristes et gens du coin repliaient leur pique-nique, leurs serviettes et s'en retournaient. Un doux silence s'est installé dans les gorges, les voix s'estompant peu à peu dans le lointain. J'étais toute seule. Alors, j'ai enlevé mon haut de maillot de bain pour la première fois depuis petite fille et mon corps de femme est entré en contact avec la rivière. Pour vous, les hommes, ce geste est tellement banal et peut-être que vous ne mesurez même plus la sensation incroyable que procure l'eau sur votre torse. Mais pour moi, fille, adolescente puis femme, ce geste n'a malheureusement rien de facile ni de naturel. Parce que des lois tacites dictent le comportement de chacun et dictent le corps des femmes. Et ainsi, on m'a privée de cet état de grâce, de communion avec la rivière. Libérée de ces bouts de tissu, mes seins ont embrassé le courant, et c'est comme si mon corps voyait mieux la rivière, ses strates, ses remous, ses couleurs, en défilant sur mon corps délivré. Je devenais une partie de la rivière, je me coulais en elle et devenais un être vivant parmi les autres êtres peuplant l'eau cristalline. Les sensations en étaient décuplées. Je ressentais littéralement la rivière au lieu qu'elle me coulait dessus sur mon bout de tissu bariolé. Comme si elle avait une consistance plus réelle que si j'étais habillée.
Donc finalement, pour toi, Marine, la nudité, ça n'a rien de choquant.
Non, nous confondons souvent nudité, sexualité et pornographie. Ce n'est pas le fait d'être nu qui est pornographique. Regardez Instagram et ses défilés de femmes et d'hommes habillés pour être mieux déshabillés aux poses lascives, sexuelles, avec de gros plans sur les seins et les fesses dont un mince tissu les dévoile plus qu'elle ne les cache. Les muscles des hommes saillants et leur sexe joliment moulé dans des slips minuscules, aux cuisses bien écartées et aux regards braises et tortueux. Et face à ça, les nus artistiques, sans rien de sexuel, sont censurés. Parce que les tétons des femmes, vous comprenez, c'est tellement choquant. Mon corps a tout autant le droit d'exister que celui des hommes. Et mon corps a le droit de sentir le vent tout contre lui, le soleil, le sel de la mer, la brise tiède d'un soir d'été. Sans étoffe, sans regard lubrique, sans regard courroucé, sans indignation. Nus, nous sommes nous, tout simplement.
Merci Marine pour cette chronique dans laquelle, une nouvelle fois... Bien qu'habillée, tu te mets à nu et tu mets à nu quelques-unes des conventions qui gouvernent le monde depuis la nuit des temps et des hommes. Alors bien sûr, on pourra retrouver en podcast notre émission du 5 décembre 2024 au cours de laquelle tu nous as présenté l'origine de ta passion pour le dessin, la nature, les voyages, la photographie, les animaux libres et non sauvages. On peut aussi écouter tes deux précédentes chroniques. La première sur le loup jaune né sous ta plume pendant le Covid, la deuxième sur les parures des oiseaux peu connus de nos forêts. On peut retrouver tes deux précédentes chroniques dans nos émissions du 9 janvier et du 6 février 2025 sur le site d'IDFM naturellement. Rendez-vous compte. On écoute une chanson qui semble avoir été écrite pour illustrer ta chronique, Brigitte Bardot, 1970, Nu au soleil.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. Que c'est grisant, nu au soleil, complètement nu au soleil, complètement.
Petite annonce pour terminer, je vous invite à retrouver notre ami Bernard Vercruis, peintre naïf, valoisien, spécialiste des chats, ce vendredi 7 mars à 19h lors du vernissage de l'exposition qui lui est consacrée au château de Grouchy à Osny, près de Pontoise, une exposition qui durera jusqu'au 30 mars. Nous retrouverons d'ailleurs Bernard ainsi que son ami et complice Dan Jacobson, un autre valdoisien, peintre hyper réaliste. On les retrouvera dans nos deux rendez-vous comptes des 13 et 20 mars. Ainsi se termine notre rendez-vous compte spécial chronique qui avait pour thème aujourd'hui à corps et à cri, à retrouver en podcast sur le site de la radio avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Nicolas, Thierry, Michel, Hélène, Gérard, sans oublier Marine, bien entendu. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte sur EDFM, évidemment.